Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Il y a quelques mois, j'ai lancé un tout nouveau podcast qui a un sens tout particulier pour moi. Il s'appelle Bébé arrive. Et oui, je suis enceinte de mon premier enfant et le hasard a bien fait les choses. Je travaillais sur ce projet très personnel de podcast où mon objectif était d'informer au mieux les futurs parents à travers un podcast. Bébé arrive, c'est donc la compilation des plus grandes voix françaises pour parler d'un sujet, les bébés. Toutes les grandes thématiques sont évoquées. Le sommeil, l'alimentation, la santé, l'hygiène évidemment, mais aussi l'éveil, le cerveau et le postpartum par exemple. C'est 15 épisodes, 15 experts, plus de 7 heures d'écoute pour 29,99€. Il peut être écouté sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcasts, Spotify, etc. J'espère que ce podcast vous persuadera d'une chose, faites-vous confiance. Si vous hésitez encore, les 3 premiers épisodes sont gratuits. À très vite! Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « Les adultes de demain » dédié à l'éducation des enfants et la parentalité. Les adultes de demain, c'est une conversation entre d'un côté une mère, Sylvie Desclèbes, 5 enfants, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, éducatrice, créatrice d'un organisme de formation et écrivaine dans l'éducation. Et de l'autre côté, sa fille, c'est moi, Stéphanie. J'ai été élève avec mes frères et sœurs dans l'école Montessori de mes parents, de la maternelle jusqu'au bac. Du haut de mes 27 ans, je me suis toujours rendu compte que cela faisait de nous des profils assez particuliers, suscitant de nombreuses interrogations. Non seulement car je suis un pur produit de ces pédagogies dites positives, très à la mode depuis peu, mais surtout parce que j'ai grandi dans un environnement dédié à l'éducation des enfants. C'est pour cela qu'on a décidé, avec Sylvie, ma mère, de créer ce podcast et d'utiliser notre histoire pour répondre à ces interrogations sur les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain. Chaque semaine, j'interrogerai Sylvie, une experte de l'éducation, et mère et grand-mère épanouie, pour aborder des grands thèmes en lien avec l'éducation et la parentalité, pour comprendre les évolutions de la société, les opportunités, les inquiétudes, les interrogations de jeunes adultes comme moi, de parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Nous inviterons également des experts pour partager leur expérience sur des sujets qui nous passionnent. Alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Pour ce premier épisode des adultes de demain, j'ai envie qu'on revienne sur le parcours de ma mère Sylvie Desclèbes afin de mieux comprendre comment elle en est arrivée à entreprendre dans l'éducation. Alors, fille de Charentais, tu as grandi à Versailles avec 6 autres frères et sœurs. L'école a été pour toi un moment relativement difficile, on reviendra bien sûr là-dessus. Tu as raté une première fois ton bac et tu l'as eu une seconde fois au rattrapage. Tu n'as pas voulu suivre d'études pour te lancer directement dans le monde du travail avec des petits boulots. Et si on fait un grand bond en avant, 40 ans plus tard, tu finis avec 5 enfants, 3 petits-enfants, directrice d'école Montessori, auteure d'une cinquantaine de livres Montessori, créatrice d'un organisme de formation. Donc je ne vais pas citer tous les projets sur lesquels tu travailles actuellement, tellement il y en a. Mais si on est là aujourd'hui, du coup, c'est pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 années. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, la jeune Sylvie, un peu sauvage comme tu aimais nous le dire, s'est transformée en une passionnée de l'éducation. Alors pour ma première question, j'aimerais mieux comprendre le tout début de ton parcours et notamment le fait que tu aies détesté l'école, ce qui est quand même assez étonnant pour une future directrice d'école. Alors est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ?
Oui, alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question, pourquoi j'avais pas aimé l'école. Et en fait, je me rends compte que j'ai aucun bon souvenir de l'école, mais vraiment aucun bon souvenir. Et alors, pourquoi pas de bons souvenirs? Je pense surtout à cause du stress que j'éprouvais avant d'aller à l'école. En fait, j'avais le stress des interros surprises, le stress des contrôles, le stress d'être interrogée à l'oral devant tout le monde. Et puis aussi, j'avais pas vraiment des bonnes relations avec les adultes. Il y a aucun adulte qui m'a marqué pendant tout ce parcours. Je trouvais que les relations étaient pas équilibrées, ils pouvaient mal nous parler, ils pouvaient nous ignorer. Et puis, de ce fait, j'ai pas eu de matières qui m'ont vraiment passionnée. Donc, je pense que ces souvenirs, ou cette absence de souvenirs de l'école, ont fait que voilà, j'ai pas aimé l'école, pas du tout.
Et du coup, quelle attitude t'adoptais? Quel élève tu étais concrètement?
En fait, j'avais un côté un peu rebelle que j'ai toujours eu, donc évidemment avec un peu d'insolence. Mais j'ai le souvenir que j'essayais surtout beaucoup de me faire oublier, à tel point que sur la fin de ma scolarité, je me faisais tellement oublier que j'allais plus à l'école. Et donc c'est cette attitude que j'adoptais pour éviter les relations avec tous ces gens-là.
Et tes parents, ils réagissaient comment ?
Ah, mes parents, j'ai eu des parents assez extraordinaires et en fait, mes parents disaient pas grand-chose. Il faut dire que je devrais pas le dire, mais c'est moi qui faisais mes mots d'absence. Et après, ça faisait rire mon père. Donc, mes parents, ils tenaient à ce que j'aie mon bac, à ce que j'aille jusqu'au bac. Et c'était tout, en fait. Sinon, ils me laissaient assez autonome dans la gestion de ma vie.
Et du coup, donc, si je comprends bien, une première année de terminale assez chaotique, t'as raté ton bac, t'avais quand même pour objectif de l'avoir, donc tu l'as eu. Et ensuite, quelles étaient tes aspirations? Qu'est-ce que tu voulais faire après tout ça?
Alors en fait, j'ai raté mon bac parce que j'allais jamais en classe. Donc évidemment, quand je me suis retrouvée aux épreuves, ça n'a pas été facile. Après, je voulais arrêter, mais comme je t'ai dit, mes parents voulaient absolument que j'aie mon bac. Donc ils m'ont obligée à reprendre. Et donc après, j'avais qu'une idée, c'est de m'enfuir de l'école. J'avais pas de matière qui me passionnait. Et puis, j'ai toujours eu une aspiration de grande autonomie dans ma vie. Donc moi, ce que je voulais, c'est travailler, c'est rentrer dans la vie active le plus vite possible pour gagner ma vie et pour être autonome, pour pouvoir offrir des voyages. Puis je voulais vraiment être dans le concret, sur le terrain, travailler. Parce que ce n'était pas le problème du travail qui se posait, mais c'était le fait d'étudier ne m'intéressait pas du tout à ce moment-là.
Et donc, tu te projetais comment? C'était quoi pour toi, Sylvie, à 30 ans?
Oh là là, je ne me projetais pas du tout. Alors là, je vivais au moment présent. Je me suis inscrite dans une agence intérim et j'ai pris les boulots qu'on m'offrait. Alors au début, ça a été assistante dentaire. Ça n'avait rien à voir avec mes aspirations du moment, puisque mes aspirations, c'était le tennis, en fait, à cette époque. Donc, j'ai fait ça pendant 3 mois et je me suis fait renvoyer parce que, franchement, j'aimais pas du tout faire ça. Et après, j'ai été prendre des cours de dactylographie pour apprendre à parler, à taper, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait quand même savoir faire quelque chose. Et là, j'ai fait plusieurs petits boulots. Je suis rentrée à l'EDF quelques semaines et puis après j'ai eu la chance de rentrer chez un grand promoteur immobilier en tant que dactylo chiffre. Je savais vraiment pas taper les chiffres, mais on m'a dit qu'il fallait que je dise ça. Et donc je suis rentrée en tant que dactylo chiffre et là j'ai beaucoup beaucoup travaillé, mais sans me projeter tellement dans l'avenir. Pour moi, je travaillais et puis j'avançais comme ça.
Pourtant, moi j'ai quand même souvenir dans mon enfance quand tu nous parlais de toute cette période-là. Tu disais que tu étais déjà quelqu'un de très ambitieux et que entre 20 ans et 30 ans, tu rêvais d'une vie à fond la caisse, à très bien gagner ta vie. Du coup, comment tu faisais pour arriver à cet objectif-là ?
Alors là, c'est quand j'ai commencé à travailler chez ce promoteur immobilier. Là, l'ambition est vraiment, vraiment arrivée en moi et je me suis dit, oui, en effet, que j'allais être la plus jeune directrice générale de France. Donc, il fallait que je monte les échelons les uns après les autres parce qu'évidemment, quand on n'a pas étudié, hein, on part de bas et on va moins vite. Et donc, la seule, quoi, pour moi, il fallait que je travaille beaucoup pour y arriver. Donc c'est vrai que cette ambition m'a portée à toujours essayer de monter, mais sans savoir réellement jusqu'où j'allais aller. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup d'ambition. Et donc j'ai travaillé énormément et petit à petit, j'ai monté les échelons. Et c'est comme ça que je suis devenue, au bout de, je crois, 6 ans, 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus, directrice commerciale du groupe. Et avec un travail passionnant et très jeune, hein, puisqu'à ce moment-là, je vais avoir, je sais pas, 26 ans. Et je gérais des équipes importantes de vendeurs, je m'occupais du service décoration. En fait, je faisais énormément de choses et je travaillais tout le temps. Parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est le travail, en fait. Hein. Donc, je travaillais 7 jours sur 7, je prenais pas de vacances et j'étais nourrie par mon travail et par cette ambition, en fait.
Et donc, ce qui m'étonne toujours dans cette histoire, c'est de se dire que quand même, l'école a été pour toi un souvenir relativement douloureux et ça t'a pourtant pas cassé ta confiance en toi pour très bien réussir professionnellement. Parce que quand même, arriver à 27 ans, finir directrice commerciale, moi, je t'avoue que des profils comme ça, aujourd'hui, on en voit assez peu. Qu'est-ce qui a fait que t'aies eu cette rage de réussir, justement ?
Bah, je pense que ça, je le dois à mes parents, hein, parce que mon père et ma mère ont toujours eu beaucoup d'admiration pour ce que je faisais. C'est vrai que j'ai été la chouchoute de mon père parmi les 6, et je pense que, quoi, pour moi, l'admiration qu'un père et une mère peuvent porter à son enfant des tout petits, c'est très très porteur en fait, et c'est plus fort que tout. Et vraiment, c'est ce que je leur dis, parce que j'ai la chance de les avoir encore tous les jours, c'est que cette réussite, cette ambition, croire en moi toujours, me dire toujours « ça tu vas y arriver », je pense que je la dois à l'enfance que j'ai eue, où ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé cette autonomie, et en même temps, en ayant une admiration sans borne pour tout ce que je faisais, et en me le disant. Et je pense que c'est ça qui a fait que l'école, en fait, ne m'a pas cassée. C'est qu'en fait, mes parents étaient autour et ils m'ont beaucoup, beaucoup entourée.
Et ils croyaient en toi, du coup ?
Ah, énormément. Ils ont toujours cru en tout ce que je faisais, quoi. C'était toujours extraordinaire, même si ce n'était pas extraordinaire.
Donc, du coup, là, si je comprends bien, donc on en est au moment où tu es directrice commerciale. C'est quand même toujours très, très loin de l'éducation. Et du coup, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'es venue l'idée de créer ta première école ?
Alors c'est vrai, c'est loin de l'éducation, c'est loin des enfants. Alors c'est vrai, j'aimais bien les enfants, mais comme ça. Hein. Et puis, je me suis retrouvée enceinte de ton frère, donc de Stanislas, et avec mon ambition hein, toujours présente. Donc je m'étais dit, oui, j'ai un enfant, mais je vais l'inscrire en crèche pour qu'on me le prenne le plus rapidement possible, pour que je puisse continuer à travailler, surtout que je rate pas un seul jour. Et j'ai même travaillé le jour de mon accouchement, j'étais en réunion avec le président de la société et je me disais, il se passe un drôle de truc, en fait je pense que c'était des contractions, puisque je suis partie à midi et demi en ayant très mal au dos, je suis rentrée chez moi, je suis allée chercher ma valise et je me suis dit, il faut peut-être que j'aille voir ce qui se passe, et en fait j'ai accouché quelques heures plus tard. Et là, quand Stanislas est apparu, pour moi, la vie a été complètement bouleversée. C'est-à-dire qu'il n'était plus question que je le confie à quiconque. Même le prêter dans les bras, c'était un exploit hein, que je le prête. Et là, ça a remis en question tous mes projets, puisque je me suis dit que je pourrais plus le laisser, je pouvais plus donc avoir l'emploi que j'avais. Mais j'ai toujours eu ce besoin de travailler. Hein. Pour moi, il fallait aussi être un modèle pour mes enfants. Et puis moi, pour mon propre épanouissement, il fallait vraiment que j'ai un travail. Donc, pendant un an et 2 ans, puisqu'après, il y a Noémie qui est arrivée, sa petite sœur, un an plus tard, j'ai déjà énormément lu sur les enfants, parce que pour moi, c'était un projet énorme. Avoir un enfant, c'était une responsabilité énorme. En avoir deux, encore pire. Et je me disais que beaucoup de gens avaient écrit sur ces sujets, que moi, j'y connaissais rien. Et donc, il fallait que je lise, que je lise, que je lise, que je lise. Et c'est comme ça que, en fait, une passion est née chez moi pour les enfants en général. Surtout, voilà, pour les enfants. Après, quoi faire avec les enfants, je sais pas, mais c'était une passion pour les enfants. Et puis, évidemment, à 2 ans, il faut quand même songer à l'école. Et comme pour moi, c'était impossible d'imaginer mettre mes enfants dans une école classique, j'ai cherché dans mes lectures aussi tout ce qui pouvait être écrit sur les écoles, les pédagogies alternatives, etc. Et là, j'ai rencontré la pédagogie Montessori qui m'a énormément plu. Parce que une des choses qui était pour moi fondamentale, c'est qu'on mette pas mes enfants dans un moule et qu'on les respecte avec leurs qualités, leurs défauts, et que voilà, on garde leur individualité. Donc c'est comme ça que je suis venue à m'intéresser à l'éducation et aux enfants par mes lectures, bon, pas la naissance de mes enfants, mais par tout ce que j'ai fait autour pour accompagner leur éducation.
Donc si je comprends bien, cette passion pour l'éducation t'est vraiment apparue avec l'instinct maternel. Et avant ça, tu n'avais pas d'intérêt particulier pour ce domaine-là?
Non, pas du tout. Je trouvais ça mignon, les enfants, mais voilà, c'est tout. Hein. j'ai fait un peu de babysitter avec ma nièce, mais voilà, pas plus. Hein, ça me passionnait pas du tout. Hein.
Et tu te... Sylvie mère, tu l'imaginais comment?
Oh, ça c'est quelque chose que j'imaginais pas beaucoup quoi. Je me disais que si j'allais, mes enfants iraient à la crèche, puis après ils iraient dans une école, et puis moi je continuerais à travailler, à réussir, à me déplacer, à voyager, et puis voilà, je m'occuperais de le week-end, un peu le soir, et puis c'était tout quoi.
Et donc du coup, tu as mentionné le fait de vouloir mettre tes enfants dans une école avec une pédagogie différente et ne pas vouloir les mettre dans le classique. Pourquoi ?
Bah justement parce que pour moi, déjà avoir des enfants, comme je te disais, c'était quelque chose de très très important. Et la notion de bonheur est très importante pour moi. Je voulais vraiment que mes enfants aient l'enfance la plus heureuse possible. Et ça, pour moi, ça passait vraiment par l'école, en fait. Hein. Trouver une bonne éducation, qu'ils grandissent dans cet espace où ils passent beaucoup de temps et où ils s'épanouissent, où on fasse attention à eux, etc. Et pour moi, ça, je l'avais pas vécu à l'école classique. En plus, quand j'allais dans des dîners, j'entendais des mamans qui disaient « Moi, mes enfants, ils collent des nouilles, ils font des colliers, etc. » Et je trouvais ça vraiment pas intéressant parce que je voyais que mes enfants, ils avaient des potentiels, qu'ils s'intéressaient à plein de choses, même tout petits. Et c'est ce que j'avais aimé chez Montessori, c'est que justement, elle permet, pour moi, quoi, ce que j'avais compris de Montessori, c'est qu'elle permettait aux enfants d'apprendre très jeunes, de suivre justement leur pôle d'intérêt en fonction des intérêts, de leur présenter ce qu'il fallait, de leur mettre à disposition ce qu'il fallait. Donc, c'est comme ça, c'est pour ça que je voulais vraiment une autre école, en fait. Surtout pour le bonheur. Pour moi, on peut être un adulte heureux si on a eu une enfance heureuse. Pour moi, c'est vraiment fondamental.
Et tu avais du mal à associer le système classique au bonheur à l'école, surtout de par l'expérience que tu avais vécue ?
Oui, voilà, c'était juste mon expérience, mon vécu, puis un peu ce que j'entendais à gauche, à droite. Mais c'était vraiment basé sur ce que moi, j'avais ressenti. Et ça me semblait impossible d'amener mes enfants dans des écoles aussi où on allait me laisser à la grille, où j'allais pas savoir ce qui se passait, où parce que les petits ils ont du mal à raconter ce qui s'est passé, ils comprennent pas toujours ce qu'on leur dit. Et pour moi c'est impossible de les laisser à la porte et de pas savoir ce qui se passait, de les confier à des gens que je connaissais pas, je savais pas comment ils allaient leur parler, j'allais pas pouvoir choisir qui allait s'occuper d'eux. Pour moi c'était impossible ça.
Ouais, du coup, tu voulais être directement impliqué dedans.
Voilà.
Il y a un autre événement que tu n'as pas mentionné, c'est celui de la maladie de Noémie. Je pense que ça, tu pourrais nous en parler un petit peu aussi, comme certains éléments déclencheurs de notre vie qui peuvent nous amener à prendre de tout autre chemin.
Ouais, alors là, Noémie, donc quand elle avait 2 ans et demi, donc Stanislas c'était déjà à l'école et elle un petit peu, elle a été atteinte d'un cancer, donc on a mis longtemps à trouver, donc avec beaucoup beaucoup de souffrance pour elle et puis pour la famille. Et ça c'est un événement qui a été déclenchant de toute ma vie, encore plus que que la naissance de Stanislas. Parce que pour moi, ça m'a fait vivre des choses qui m'ont fait prendre conscience de l'intérêt d'avoir une vie utile pour les autres, de aussi l'importance de donner chaque jour le meilleur à ses enfants. En effet, quand on m'a annoncé qu'elle avait un cancer, pour moi, j'étais sûre qu'elle allait mourir, hein, qu'on n'allait pas la revoir. Et là, s'installe une grosse culpabilité de se dire « Oh, mais elle a vécu que 3 ans et je lui aurais pas donné le plus beau, la plus belle enfance, les plus belles années, les plus belles journées de sa vie. » Et là, elle n'aura pas eu une belle vie, même cette toute petite vie, elle n'aura pas été très belle. Donc, depuis ce jour, je me suis dit que chaque jour qu'elle avait passé, il fallait que j'offre les plus belles choses, la plus belle vie à mes enfants et aussi aux enfants des autres. Et c'est pour ça que je remercie toujours Noémie d'avoir été malade. Bon, j'ai eu la chance que ça se termine bien. Mais ça a vraiment complètement changé le sens de ma vie. Depuis ce jour, franchement, je me dis que chaque jour qui passe, chaque enfant qui m'est confié, je dois lui apporter la plus belle journée de sa vie. Alors bien sûr, hein, sans se dire il va mourir demain, mais ça a changé complètement mon concept de l'existence.
Parce que concrètement, comment était le quotidien d'une mère avec un enfant, une fille malade? T'avais déjà en tête les projets d'éducation. Comment tu gérais ton quotidien?
Alors en plus, j'avais 2 enfants. Hein. J'avais 3 enfants. J'avais aussi Alexandre qui était tout petit, qui avait quelques mois. Et ça, c'était assez, assez difficile à vivre parce que je voulais aussi que Stanislas et Alexandre qui vivaient ça aient quand même des super journées. Donc, on s'était arrangé avec ton père. Donc, lui, il passait les nuits avec Noémie à l'hôpital et moi, je passais les journées parce qu'en fait, c'était toujours la même chose, je voulais que ce soit que nous qui nous occupions d'elle. Et à la maison, mes parents sont venus, mes frères et sœurs, des personnes sont venues nous aider pour s'occuper des 2 autres qui étaient à la maison pour qu'ils aient aussi des jolies journées, etc. Après quelques jours d'avoir encaissé cette nouvelle, je me suis interdit de pleurer parce que pour moi, il fallait donner envie à Noémie de vivre. Et si on veut qu'un enfant, quoi, pour moi, hein, si on veut qu'un enfant ait envie de vivre, ben, il faut qu'il y ait de la joie de vivre autour d'elle, faut que ce soit joli, on lui racontait des belles histoires. Parce que pour moi, un enfant n'avait pas vraiment conscience de la mort et donc, il fallait vraiment qu'elle ait envie de s'accrocher, envie de vivre. Et il fallait que les 2 autres qui étaient à la maison, eux aussi, aient envie de vivre et que leur enfance continue d'une jolie manière. Donc c'est vrai aussi que c'est ça. Donc notre quotidien, c'était la nuit, il y avait ton père. Après, moi, je m'occupais le matin des 2 garçons. Je partais à l'hôpital, ils rentraient. Et puis voilà, je rentrais, je passais ma journée à l'hôpital avec Noémie, à lui raconter des histoires, à jouer avec des Playmobil, à faire plein de choses super, super agréables. Et puis après, je rentrais, je me donnais les bains, etc., etc. Et ça, ça a été la vie pendant assez longtemps.
Et professionnellement, vous en étiez où du coup?
Bah, professionnellement, je crois qu'on était au chômage, hein, et qu'on avait la chance de pouvoir nous occuper de nos enfants comme ça. Et puis, ça a commencé l'été. Donc, on était en vacances. Et donc, j'ai aucun souvenir professionnel de ce moment-là, en fait.
Ouais. Mais du coup, à partir de la guérison de Noémie, du coup, vous êtes mis à 100% dans le projet des écoles, c'est ça?
Voilà. En fait, Noémie, elle a été hospitalisée l'été et il y a eu la rentrée de septembre. Entre septembre, Stanislas s'est retourné à l'école. Et là, dès que j'ai pu, comme il fallait vraiment pour moi que Noémie ait une vie comme celle des autres enfants, même si elle savait plus marcher, mais elle a réappris tout doucement. En fait, ils sont retournés tous les deux à l'école assez rapidement. Noémie a dû y aller vers le mois de novembre. Donc là, ça justifiait encore plus le fait d'avoir une école parce qu'il fallait des petits effectifs, il fallait qu'il n'y ait pas trop de microbes parce qu'elle était sous chimio très très fort, donc il fallait pas qu'elle attrape de maladies, il fallait pas qu'on la bouscule. Et donc là, ils ont recommencé à aller à l'école tous les deux. Et c'était important qu'ils soient ensemble, c'est-à-dire ça la protégeait beaucoup. Et puis, comme ça, elle avait une vie comme les autres. Je crois qu'elle a jamais manqué l'école de sa vie, en fait.
Et ils étaient dans quelle école, à ce moment-là?
Ils étaient dans une école où j'avais inscrit Stanislas au début. Et la directrice, ayant été mutée et me voyant extrêmement impliquée dans cette école, elle m'avait confié son école. Donc, ils étaient dans une petite école que j'avais reprise à côté d'ici, à Saint-Nom-la-Bretèche, et que j'avais reprise. Et après, j'ai créé l'école au même moment. À Noisy, c'était plus près de chez nous. C'était un local que la pédiatre nous avait prêté. Donc on est parti là parce que c'était plus près, donc plus facile.
Et donc là, du coup, c'est à ce moment-là que tu as créé ton école Montessori.
Voilà, là, c'était vraiment mon école Montessori. Et je m'en occupais, j'enseignais pas à cette époque parce que j'avais 3 jeunes enfants tout petits. Et puis Noémie qui prenait beaucoup de temps. Mais là, j'étais à fond dans mes formations parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse autre chose que de me focaliser sur la maladie de Noémie, qu'il fallait que je m'occupe aussi moi personnellement. Et donc là, je me suis nourrie avec des formations Montessori, des formations, des livres, voilà, beaucoup de choses pendant ce temps-là.
Et alors là, forcément, la question qui me vient tout de suite, c'est pourquoi Montessori ? C'était quand même il y a très très longtemps. Montessori, c'est très à la mode depuis peu. J'imagine que tu as été accueillie par beaucoup de personnes de manière assez critique. Ces méthodes-là étaient très peu répandues en France. Donc, qu'est-ce qui t'a particulièrement attirée dans la pédagogie de Maria Montessori pour justement te lancer dans la création d'une école ?
Alors, pourquoi Montessori ? Ça, c'est ce que je disais. C'est d'abord le respect de chaque enfant. Ça, c'était extrêmement important. Et encore plus important avec ce qui nous était arrivé, puisqu'il fallait vraiment tenir compte de ce contexte dans lequel ils grandissaient. Ensuite, parce que c'est aussi, comme je disais, pour répondre au potentiel et aux besoins d'apprendre de l'enfant. Moi, je voyais vraiment qu'ils avaient besoin d'apprendre. Et ça, c'est ce que j'aime énormément aussi dans la pédagogie Montessori. C'est que on répond à la soif d'apprendre de l'enfant. Et ensuite, il y avait les valeurs auxquelles je crois beaucoup. Hein. C'est une éducation que Maria Montessori a créée pour la paix dans le monde. Et pour moi, si on veut une vie utile aussi, quoi, pour moi, ma vie utile, j'y crois encore, ce serait de changer le monde. Et changer le monde, ça commence par l'éducation, c'est ce que Maria Montessori a toujours dit. Mais je pense qu'on est à l'école aussi pour inculquer des valeurs de paix, des valeurs de tolérance. J'aime aussi, chez Montessori, ce qui pour moi est très important, c'est le développement de l'autonomie, le développement de la confiance en soi. Et encore une fois, pour cette notion de bonheur, si je veux que les enfants deviennent des adultes heureux, il faut qu'ils aient une belle enfance, une enfance où ils grandissent sans stress, où ils sachent se construire, ils puissent se construire tout seuls, entourés d'adultes bienveillants. Donc ça, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé chez Montessori. C'est le rôle de l'adulte, la posture de l'adulte. Elle a révolutionné ça quand elle a créé sa méthode, en disant que l'adulte devait d'abord être un observateur au lieu d'être quelqu'un qui dit fait ci, fait ça. C'est un observateur en fonction de ce qu'il observe. Il met en place un environnement où l'enfant va puiser tout ce dont il a besoin. Et puis, elle disait aussi que l'adulte doit faire un travail sur lui pour se débarrasser de tout orgueil, toute colère vis-à-vis de l'enfant. Et ça, je trouve ça vraiment, pour moi, c'est d'une grande richesse d'avoir compris qu'il fallait que l'adulte qui s'occupe des enfants fasse vraiment un travail sur lui. Et puis, tout le matériel qui existait, qui est assez fondamental pour permettre à l'enfant de tout comprendre par le concret, par la manipulation, par le travail de la main. Donc ça, c'était les grandes lignes au départ qui m'ont plu chez Montessori.
Oui, et de toute façon, on reviendra dans des prochains épisodes sur ton interprétation et tes explications de cette pédagogie et concrètement, comment est-ce qu'elle s'articule dans une classe. Moi, je me demande du coup comment tu as pris connaissance de cette pédagogie. Je suppose qu'il y avait assez peu d'écrits en France à cette époque-là, peu de formation. Comment tu as fait pour te former là-dessus ?
Alors, j'avais lu un petit peu des livres qui parlaient de Maria Montessori. Et puis après, j'ai suivi des cours par correspondance. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose en France. Et puis, comme j'avais des jeunes enfants, je ne pouvais pas me déplacer. Donc, j'ai pris des cours par correspondance en anglais, ce qui était difficile pour moi parce que tu connais mon niveau d'anglais. Donc, en fait, je traduisais tous les cours, je traduisais mes devoirs et ton père me les retraduisait en anglais. Et ça me suffisait pas. Alors j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est venue me former, qui était la présidente de l'association Montessori d'Amérique du Nord, donc une Canadienne anglophone qui est venue de nombreuses années ici pour me former et avec qui j'ai même commencé mes premières formations. Et puis après, je n'ai pas enseigné tout de suite. Hein. Donc cette pédagogie, elle m'a plu tout de suite. Et après, je suis allée beaucoup, beaucoup, beaucoup en classe avec les éducatrices les éducateurs qui s'occupaient des enfants dans notre école.
Et aussi, la particularité des écoles que tu as créées, c'est que, bien sûr, tu t'es beaucoup inspirée de cette pédagogie de Maria Montessori, mais tu as aussi mis en place d'autres mécanismes type le bilinguisme. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus?
Mais alors le bilinguisme pour moi c'était fondamental parce que comme je dis pour que le but de l'école c'est de poser toutes les bases pour que l'adulte que l'enfant deviendra soit quelqu'un d'heureux et épanoui. Et l'anglais, c'était pour moi vraiment très important que les enfants l'apprennent très jeune. J'avais lu beaucoup sur le bilinguisme et donc j'avais lu qu'il fallait commencer le plus tôt possible, qu'il fallait un environnement différent par langue, une seule personne qui parle la langue, même dans les parents de couples mixtes, une personne parle une langue, l'autre personne parle l'autre langue. Et puis, moi, j'ai un gros handicap par rapport à l'anglais, hein, je m'en rendais compte, hein, puisque beaucoup de choses sur Montessori sont en anglais, puisque c'était beaucoup plus développé dans des pays anglophones qu'en France à l'époque. Votre père est bilingue, j'ai vu tout ce que ça lui a permis. Et la base, c'était vraiment de faire des écoles bilingues, mais vraiment bilingues. Et puis, je me rendais compte aussi que, et j'en ai été... une des victimes, que l'anglais à l'école traditionnelle française est pas bien enseigné. Et donc, pour moi, c'était un plus que nos écoles offriraient aussi aux enfants que ce bilinguisme.
Et après, ça a continué avec aussi l'apprentissage de l'espagnol, du chinois, etc. Mais ça, on reviendra là-dessus dans le prochain épisode. Donc là, on en est resté à ta petite école à Noisy-le-Roi pour tes trois premiers enfants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la suite? Notamment, il y a un fait qui est important, c'est que vous avez créé le premier lycée Montessori, ce qui veut dire que tu es quand même passé d'une toute petite école pour tes trois premiers enfants, pour les petites classes, à finalement poursuivre l'aventure jusqu'au baccalauréat. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là?
Alors en fait, ça s'est fait petit à petit, hein. Et vraiment, pour moi, au départ, je voulais vraiment faire qu'une maternelle pour mes enfants et aussi les enfants de mes amis, hein. C'était important que mes enfants et d'autres enfants autour d'eux. Puis moi, j'avais vraiment envie de m'occuper des enfants en général, mais je pensais surtout aux petits, hein, parce que j'avais lu ce livre qui s'appelle « Tout se joue avant 6 ans ». Donc, c'était fondamental que j'offre quelque chose aux enfants de moins de 6 ans. Et puis, donc, quand tes frères et sœurs ont grandi... qui sont allés pour l'âge d'élémentaire. J'ai inscrit ton frère dans une école privée sous contrat de la région, bien coté, hein, parce que c'est important. Ton père ayant eu 2 ans d'avance, ayant fait des grandes études, il fallait vraiment que son fils aîné fasse des grandes études. Donc, j'ai envoyé sa candidature et ils m'ont répondu d'une manière tellement rigide que je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je pourrais pas le mettre là, ça va pas le faire.
Et tu donc, t'en souviens ce qu'ils t'ont dit ou pas?
Mais en fait, ils m'ont dit qu'il fallait que je l'amène tout de suite et que si je voulais une place, sinon c'était des listes d'attente et qu'il fallait qu'il commence dès maintenant, immédiatement et tout ça. Et donc, pour moi, quoi, c'était pas possible qu'il commence. Je voulais vraiment qu'il termine son cycle correctement de maternelle. Donc, c'était pas possible. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah, on va créer le primaire, hein, puisque c'est comme ça, on va faire la continuité. J'avais une éducatrice qui pouvait continuer, donc on a continué le primaire. Puis après, avec le bilinguisme, comme on le faisait, ben il est devenu bilingue. Donc, je me suis dit automatiquement pour le collège, je vais l'inscrire au lycée international de Saint-Germain, puisque c'est à côté de chez nous, que ça a une bonne réputation. Et je suis allée me promener là-bas. Moi, j'aime bien voir un peu, sentir l'ambiance, etc. Et là, j'ai vu qu'il y avait des milliers de jeunes. Et je me suis dit, mais oh, t'as tout fait pour qu'on tienne compte de l'individualité de tes enfants. Comment, avec autant d'élèves, on va faire attention à eux? Et donc, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je peux pas. Et donc, j'ai créé le collège. Et après, je t'avoue que pour le lycée, je me suis pas posé de questions. C'était automatique. Donc, en fait, souvent, on me dit, oh, ça a été difficile. Non, ça a pas été difficile. Ça s'est fait naturellement, en fait. On est monté petit à petit avec les enfants. Pas qu'avec les nôtres, hein, avec ceux qui les accompagnaient. On est monté petit à petit.
Et du coup, concrètement, comment t'as mis en place ce collège et ce lycée? Parce que on sait notamment que Montessori s'est surtout intéressé aux plus petits âges. Donc comment t'as réussi à créer ces établissements-là tout en suivant toujours le programme de l'éducation nationale, en préparant les enfants aux examens? Qu'est-ce que concrètement vous avez mis en place?
Alors là, il a fallu quand même pas mal réfléchir. J'ai relu beaucoup parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'existait pas grand-chose sur cet âge-là. Il existe des lycées hein, et des collèges en Hollande, il en existe en Allemagne, il en existe un petit peu aux États-Unis. Et puis, Maria Montessori, elle a écrit un livre qui s'appelle « De l'enfant à l'adolescent » où elle parle un petit peu de ça. Et donc, elle était plus pour ce qu'on appelle des « Erstkinder », c'est-à-dire des lieux où les enfants à l'adolescence vont en pension et où ils sont mis en contact avec la terre. C'est pour ça que ça s'appelle « Erst », c'est la terre. Et où ben, ils cultivent, ils peuvent monter des maisons d'hôtes où ils reçoivent leurs parents et tous les enseignements sont basés là-dessus. Donc moi, je voulais pas faire ça parce que j'ai jamais voulu marginaliser les élèves, les enfants qu'on me confiait. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais garder les principes de base de la pédagogie Montessori, c'est-à-dire le respect de l'enfant, le travail individuel, la relation avec l'adulte, la posture de l'adulte, la possibilité de faire les choses en concret, et que j'allais garder donc ces grandes valeurs. Tout comme tu disais, en gardant les programmes, en respectant les programmes de l'éducation nationale, en préparant les examens, etc. Parce que je me disais que le reste, c'était vraiment trop marginalisé. Et moi, je me suis toujours interdit de marginaliser les élèves parce que pour moi, on n'a pas le droit de décider de l'avenir de ces jeunes. Et il fallait vraiment que les élèves réussissent les examens, réussissent le brevet, réussissent le bac et puissent rentrer où ils voulaient, en fait. Pour moi, j'avais fait cette école pour ouvrir des portes. Donc, si c'était pour les refermer parce que c'était trop marginal, c'était pas possible. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas des vrais Montessori, hein, c'est d'inspiration Montessori, mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc, aujourd'hui, je reviens aussi plus à on a des potagers, on a des animaux, les enfants vendent leurs récoltes, ce sont des activités annexes, hein, pas principales, parce que pour moi, il faut vraiment préparer les élèves à réussir leurs examens et à s'adapter à la vie comme les autres enfants, comme les autres élèves.
Et comment t'arrivais à trouver des professeurs qui te suivent dans cette aventure un peu folle quand même ?
Ça, c'est difficile justement parce qu'il n'existe pas de formation aujourd'hui Montessori pour les collégiens, pour les professeurs de collège et lycée. Donc, il faut trouver des gens qui ont envie d'autre chose. Donc ça, on en trouve, mais il faut trouver qui ont envie d'autre chose, mais avec la rigueur quand même pour vous préparer aux examens. Donc ça a pas marché du premier coup. Hein. On a trouvé des gens parfois où ça fonctionnait pas. Mais je sais pas, j'ai eu la chance sur le chemin de rencontrer des gens extraordinaires qui trouvaient ce projet intéressant, justement parce qu'on avait une autre approche, mais avec du sérieux quand même pour la préparation des examens. Et puis malgré tout, Montessori, c'est d'abord une philosophie de vie et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette philosophie en eux et qui n'étaient pas très heureux dans l'éducation nationale, pour ceux qui viennent de l'éducation nationale à cause des groupes importants. Hein, nous, on avait des petits effectifs et puis avec d'autres valeurs aussi pour certaines choses. Le fait de ne pas mettre des notes, le fait d'être beaucoup dans l'encouragement, etc. Et on a eu la chance de trouver des personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui et qui se sont retrouvées dans ce projet et où ça a marché, en fait.
Et moi, une question que je me pose, c'est donc comment tu as fait en sorte que justement tous ces élèves ne soient pas perçus comme des enfants marginalisés? Vous voyez quand même à cette époque-là, nous quand on était à l'école, il y avait très peu d'autres écoles comme ça autour de nous. On était vraiment pas la norme. Et qu'est-ce que vous mettiez concrètement en place pour qu'on arrive à être des enfants qui s'adaptent aux études supérieures, au monde professionnel et même aux rencontres d'enfants qui n'ont pas suivi ce parcours scolaire-là.
Alors. Ça, c'est souvent ce qu'on nous demande. On nous dit, mais comment vont-ils s'adapter ? En fait, pour moi, plus on rend un enfant fort, un jeune fort, plus il s'adapte. Il y a des gens qui croient que c'est en les mettant dans des situations difficiles qu'ils vont mieux s'adapter. Moi, je crois pas parce qu'on affaiblit le jeune. Alors, moi, je me suis toujours dit que en rendant les élèves autonomes, en leur donnant confiance en eux, en leur apprenant à savoir travailler, en ayant des bonnes bases, des belles valeurs, je pense qu'on s'adapte n'importe où. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place le plus possible. Après, petit à petit, au fur et à mesure que les élèves grandissent, c'est vrai qu'on met des notes, c'est vrai qu'on fait des bulletins, c'est vrai qu'on fait des conseils de classe. Et ça, c'est très important aussi pour justement s'adapter à la vie étudiante normale. Et puis, je pense aussi que la bonne relation avec les adultes aide beaucoup parce qu'il y a une grande communication entre les élèves et les adultes. Et donc, plus tard, quand ils se retrouvent dans ce monde des étudiants, ils s'adaptent tout à fait. Après, pour mes propres enfants, j'ai essayé de vous faire faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités, parce que là, je peux pas. Là, vous êtes obligé de côtoyer d'autres enfants, vous êtes obligé de faire vous-même vos preuves. Et ça, pour moi, c'était aussi très important que vous alliez à l'extérieur, en fait. Hein.
D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Quelles ont été les réactions autour de toi? Parce que c'est quand même une histoire assez particulière et on aurait pu te reprocher d'être un petit peu trop focalisé sur tes enfants, de vouloir trop les chouchouter. Quelles a été tes réactions et comment t'as fait face à ces critiques?
En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques. Hein. On n'a pas arrêté de me dire que c'était pas bien, que je marginalisais, que, comme tu dis, que je vous couvais trop, que vous adapteriez jamais au monde. Et c'est vrai que parfois, ça semait un peu de doute, mais j'étais vraiment déterminée parce que je voyais que vous et les élèves qui étaient là, vous étiez heureux, vous progressiez bien, vous adaptiez. Donc, c'est vrai que c'était pas facile de faire face à toutes ces critiques, surtout qu'il y avait pas d'autres écoles. Donc, j'avais droit au fait qu'on était des sectes, que vous auriez pas le niveau, que les élèves n'auraient pas le niveau, qu'ils seraient pas pris en prépa, que, mais en fait, je sais pas, j'y croyais et puis les choses, elles se sont construites petit à petit. C'est vrai que j'ai eu des stress importants, hein. Surtout au moment du bac, après le bac pour entrer dans les grandes écoles pour ton frère, puisque ça a été le premier qui y est allé. Mais par chance, quoi, pas par chance, parce que je crois que le travail paye toujours, bah ça a bien fonctionné. Mais c'est vrai que les critiques, c'était pas toujours facile, parce que d'un côté, je voulais que vous ayez une belle vie, que les élèves qu'on me confiait aient une belle vie. Puis de l'autre côté, on me disait, bah non, mais tu vas leur fermer des portes. Donc c'est vrai que c'était pas facile, mais j'y croyais vraiment, quoi.
Et je confirme pour toutes les personnes qui nous écoutent que je pense qu'on est quand même des adultes à peu près normaux maintenant. Et du coup, c'est quand même une belle histoire entrepreneuriale vu que on est dans la grande mode de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as fait face à des obstacles particuliers, des épreuves dans cette création d'entreprise? Parce que même si on est dans l'éducation, on est quand même dans la création d'une école privée hors contrat, et donc c'est concrètement comme une vie d'entreprise. Les professeurs sont vos salariés, etc. Donc quels ont été les obstacles dans cette vie de création d'entreprise?
Alors c'est vrai que ça c'est ce dont se rend pas compte tout le monde, c'est que c'est une véritable entreprise, parce que comme tu dis, les professeurs sont salariés, on paye nos charges et tout ça c'est financé par les frais de scolarité payés par les familles, donc c'est vraiment une entreprise qu'il faut gérer. Et c'est là où moi j'ai eu des difficultés du fait, je pense, de ne pas avoir fait d'études, hein. C'est que c'était tout nouveau, que je suis plutôt passionnée par la pédagogie, par les enfants et que la gestion du personnel, les contrats de travail, les bilans financiers, c'est vraiment vraiment pas mon truc. Et donc là, c'est vrai qu'on s'est heurté à des difficultés déjà au niveau de la gestion du personnel, de l'embauche, de tout ça. Moi, je savais pas très bien faire et que on s'est souvent trompé. On a fait des erreurs de gestion aussi. Et puis je te dis, moi, il y a mon côté aussi où j'aime les enfants, où je veux aider tout le monde et le côté où ces écoles sont chères a fait que moi, je voulant aider tout le monde, j'ai pris plein d'enfants gratuits, donc les comptes étaient pas très bons. On a grossi trop vite, je crois qu'aussi ça nous a dépassé. Et puis bah c'est vrai que du coup on a eu une faillite, et ça a été un événement très difficile à vivre et un gros obstacle à ouais. L'école.
Et suite à cette faillite, du coup qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, suite à cette faillite, ça a été un événement difficile, mais en même temps qui m'a appris beaucoup. Et ça, c'est une des valeurs de Montessori auxquelles je crois beaucoup, c'est l'apprentissage par l'erreur. Donc j'ai tout perdu. On a fermé l'école, on a, sans compter le côté moral, hein, de se retrouver sans rien, de savoir qu'on a, on aime tellement ces jeunes et qu'ils vont partir on ne sait où, qu'on les abandonne. Il y avait 50 enseignants, la même chose, des gens que j'aimais énormément qui se retrouvent sans travail. Mais je dois dire qu'encore une fois, la suite est plutôt positive parce que je pense qu'aujourd'hui, les écoles que je recrée, la principale à Bailly, est beaucoup mieux que celle d'avant. Elle est plus petite, elle est à taille humaine. Du coup, ce à quoi je tenais beaucoup, c'est de connaître les élèves. Ben, on les connaît bien. Je me suis mieux entourée, je pense. Donc, j'ai des personnes sur qui je peux vraiment compter. Je me suis mis à faire grandir l'organisme de formation, à écrire des livres. Je pense que j'en suis ressortie grandie, vraiment grandie.
Et c'est à partir de ce moment-là aussi où tu, comme tu le disais, tu as énormément diversifié tes activités. Tu penses que tu pourrais nous citer quelques-uns des projets sur lesquels tu travailles? Donc, je sais qu'il y en a énormément, donc on aura le temps dans les prochains épisodes de se concentrer sur chacun de ces projets-là, mais voilà, si tu peux me parler des dernières nouveautés, des nouveaux métiers sur lesquels tu as évolué en dehors de ton rôle initial d'éducatrice et de directrice d'école Montessori.
Voilà, ça tu as raison, c'est avec ce problème que j'ai compris qu'il fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier et que donc il fallait vraiment que je diversifie mes activités. Donc j'ai commencé on a réouvert une école 2 mois plus tard, hein. Et donc l'organisme de formation que j'ai créé, ça c'était une des choses que je voulais faire rapidement pour diversifier et puis aussi pour transmettre, parce qu'avec tout ça je vieillis et je pense qu'il est important que je transmette. Donc ça, je crois beaucoup à la transmission, à mon rôle de transmission. Un nouveau métier, c'est aussi d'être directrice pédagogique de crèche Montessori, parce que j'ai compris en devenant grand-mère, ça m'a posé beaucoup de questions, cette nouvelle fonction de grand-mère. Donc à ce moment-là, j'ai beaucoup lu sur l'enfant de 0 à 3 ans, ce que j'avais fait peu avant, et c'est à ce moment-là que j'ai créé la formation 0-3 ans pour offrir à Noémie. Et là, je me suis rendu compte que cet âge était fondamental et on m'a au même moment demandé aussi de devenir directrice pédagogique d'un réseau de crèches. Ça, c'est un nouveau métier parce que c'est vraiment totalement différent que l'enfant de 3 à 6 ans. C'est un métier qui m'intéresse beaucoup, l'aménagement des crèches et tout ça. Je trouve ça très intéressant d'y réfléchir, de créer des nouveaux modèles de mobilier, de jeux, de tout ça. Et puis aussi l'écriture des livres, hein, c'est assez passionnant. Et surtout qu'on s'ouvre sur autre chose que Montessori, hein, donc vraiment tout ce qu'on a envie d'apporter aux enfants pour qu'ils aient une belle enfance. On s'ouvre sur plein de choses et c'est sans fin, il me semble.
Et un autre point qui est important, c'est que du coup c'est devenu une entreprise familiale, puisque il y a même tes enfants qui s'y mettent.
Voilà, et ça c'est une chose qui est super agréable pour une mère qui a entendu qu'elle était trop envahissante, hein. Ça c'est sûr que j'étais un petit peu trop maternelle, mais de voir que arrivée à l'âge adulte, j'ai plusieurs enfants qui sont revenus vers la même chose. Je trouve ça c'est un grand bonheur, hein. Donc c'est vrai que ta sœur, elle a toujours travaillé à l'école et que quand elle a créé son école à Bordeaux, j'ai trouvé ça formidable. Et puis c'est la chance de partager aussi en famille encore d'autres choses. On écrit les livres ensemble, on a fait les formations ensemble et c'était des journées fabuleuses. Après, ton frère qui est venu me rejoindre pour l'organisme de formation, qui crée ses propres écoles. Donc ça prouve que tout ça vous a plu. Et puis ça grossit, et donc du coup on emploie aussi des anciens élèves qui viennent travailler avec nous, et ça c'est aussi extraordinaire de se dire que tout le monde met son énergie vers cette éducation nouvelle. Ta petite sœur qui m'aide, qui me conseille beaucoup pour les sites internet, pour les pages Facebook, qui fait les photos des livres. En fait, c'est et toi aujourd'hui avec ce podcast, c'est de se dire que c'est ça qui était important pour moi, c'est de vous transmettre que ce qu'il y a de plus important au monde, ce sont les enfants, et tout ce qu'on peut apporter aux enfants va aider à un monde nouveau. Et aujourd'hui, les enfants, par rapport à il y a 30 ans, sont confrontés à d'autres problèmes, comme les problèmes d'écologie, etc. Et je pense qu'il va falloir voilà, leur transmettre encore d'autres choses. Et pour moi, que la nouvelle génération s'y mette, pas que vous, hein, je vous dis, les anciens élèves, mais tous ceux aussi qui nous rejoignent, c'est fondamental. C'est pour moi extraordinaire d'avoir transmis ça.
Et je pense qu'il y a un autre point qui est important, c'est aussi l'un des gros avantages de la vie de parents d'entrepreneurs, c'est que nous, en tant qu'enfants, on a toujours été très impliqués dans votre profession. Et on a vécu ça de près, et forcément on avait l'impression de vivre cette aventure professionnelle avec vous, qui est selon moi une chance. Et du coup, c'est une des questions que j'ai, et qu'on me pose beaucoup aussi au travail tous les jours, c'est comment gérer sa vie de famille quand on a 5 enfants et qu'on est en train de créer une boîte. Concrètement, comment t'as géré ça?
Alors là, je pense que quoi, pour moi, il faut être bien organisé, parce qu'en fait, il faut que tout profite à tous, en fait, et qu'on arrive à se retrouver dans chacun des rôles. Comme tu l'as entendu, bon, pour moi, mon rôle de mère était important, mais c'était aussi hyper important que j'ai une activité professionnelle. Donc c'est vrai que ce travail avec les écoles est vraiment très bien avec des enfants, parce que on a le même rythme que les enfants, on a les mêmes vacances scolaires, on a les mêmes horaires. Après, l'autre côté, c'est que on travaille aussi beaucoup beaucoup à la maison, parce qu'il faut bien faire ce qu'il y a à faire. Donc moi, j'ai toujours beaucoup aimé travailler le soir. Donc quand vous étiez petit, c'est vrai que je travaillais beaucoup quand vous étiez couché. Et puis, comme je dis, c'est une question d'organisation. On a eu la chance avec ton père qu'on se répartisse les rôles, et que lui a arrêté aussi son travail et donc participe beaucoup autant à l'école qu'à la vie de famille. Et donc les rôles étaient très très bien répartis, parce que je pense que voilà, dans notre rôle d'entrepreneur, ou quand les gens m'écrivent pour créer des écoles, je pense que c'est vraiment un travail de couple. Il faut que le couple soit d'accord, parce que c'est un investissement énorme en temps. Et si on veut que personne soit perdant là-dedans, ni l'entreprise, ni les enfants, il faut vraiment une organisation importante. Après, on a été beaucoup aidé aussi par une personne qui compte beaucoup dans votre vie, qui est arrivée quand Noémie avait 2 mois, et qui s'occupe encore de nous aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir s'appuyer sur des gens solides avec les mêmes valeurs que les nôtres, et qui restent dans le temps, parce qu'il faut que pour les enfants, il y ait un équilibre important dans leur vie. Donc réfléchir à ce qu'on met en place par rapport à nos enfants, pour qu'ils puissent quand même évoluer et s'épanouir, et que nous aussi on puisse s'épanouir, et donc dans la gestion du temps et la gestion des personnes qui vont s'occuper de vous. Mais il faut une organisation qui soit très très stricte, en fait.
Et ça montre aussi que tu pouvais avoir confiance dans d'autres adultes pour s'occuper de tes enfants, et que tu faisais pas non plus partie de ces mères qui sont incapables de confier leurs enfants à n'importe qui, de peur qu'ils soient pas éduqués correctement. Et du coup, en effet, on a été suivis par cette femme toute notre vie, qui a été très importante dans notre éducation. Ben, écoute, il nous reste plus beaucoup de temps, donc moi j'avais envie de te poser une dernière question sur la Sylvie que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un dimanche typique de Sylvie, toi qui travailles encore, qui es mère, qui es grand-mère, qui développe de multiples activités, qu'est-ce que c'est un dimanche typique ?
Alors un dimanche typique, c'est beaucoup de travail, hein, parce qu'en fait, mais pour moi, le travail, c'est pas un travail, hein, c'est une passion, donc c'est beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que le matin, je commence ma matinée à travailler. En général, le samedi, j'ai fait les réponses à tous mes mails. Donc le dimanche, je vais être plus consacré à l'écriture, parce que pour écrire, il faut avoir un certain nombre d'heures de suite, de concentration, sans être dérangé. Donc, en général, je commence en écrivant un chapitre de livre qui est en cours. Après, j'aime bien aller marcher, parce que maintenant, le dimanche, je vais à la campagne. parce que pour moi, la forêt, les champs, la nature sont très importantes pour me ressourcer, pour réfléchir, pour analyser ce que j'ai fait, pour essayer de réfléchir à des nouvelles idées. Donc, je vais marcher assez longtemps. Et puis après, quand je rentre au coin de la cheminée, je me remets à écrire des articles pour le blog, des posts Instagram. Et puis, je prépare ce que je vais faire la semaine suivante avec mes élèves. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que mon rôle préféré aujourd'hui, c'est mon rôle d'éducatrice auprès des élèves de ma classe de primaire. On me dit souvent qu'il faudrait que j'arrête parce que j'ai trop d'activités. Mais je dois dire que c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Et puis, en plus, je pense que pour moi, ce serait pas possible de transmettre, d'écrire si j'étais pas en contact chaque jour avec les enfants. Parce que je me rends compte que les enfants évoluent beaucoup, hein. Les enfants d'il y a 30 ans ne sont pas les mêmes que les enfants d'aujourd'hui. Même les enfants d'il y a 10, 12 ans sont pas les mêmes. Et puis pour moi, la richesse, elle vient de cette présence des enfants auprès de moi. Donc, voilà mon dimanche.
Et maintenant, ton dimanche, c'est aussi l'enregistrement des podcasts.
Exactement.
Bah, merci beaucoup pour ton temps.
Merci à toi.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.